Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Pauline de Malherbe.
Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et économique. Et je vais vous dire, on va parler de tout ça. On va parler de l'économie, on va parler des finances et on va parler aussi de l'industrie et du renouvellement industriel de la France. Mais d'abord, combien ça va coûter tout ça? Et à qui? Qui va finir par payer les dégâts, les pillages, les violences? Est-ce que c'est les habitants eux-mêmes? Est-ce que c'est les assureurs? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les parents? Qui doit payer?
C'est d'abord les assureurs qui vont payer. Les commerces sont assurés, les assurances doivent jouer et elles joueront. Je les remercie d'ailleurs d'avoir accepté de simplifier les procédures, d'allonger le délai de dépôt de plainte, et j'appelle tous les commerçants qui nous écoutent à déposer leur plainte le plus vite possible, même si le délai a été étendu à notre demande de 5 jours à 30 jours. Et les assureurs ont accepté, ce qui était une demande forte du gouvernement, de réduire les franchises pour les commerçants indépendants qui sont les plus touchés. Parce qu'il faut bien mesurer que c'est plus de 1000 commerces qui ont été touchés. C'est près de 500 débits de tabac. C'est près de 400 agences bancaires, c'est des centres commerciaux, c'est des magasins de sport. Tout ça pour rien. Absolument pour rien. C'est détruire pour détruire. Abîmer le pays pour abîmer le pays. C'est totalement inqualifiable, inexcusable et injustifiable. Et donc je voudrais avoir un mot de soutien, pas simplement un mot de soutien financier. J'étais hier à Arpajon avec la ministre des PME, Olivia Grégoire, et j'ai vu le désarroi complet des commerçants, leur colère parfois, mais surtout leur tristesse profonde, leur abattement. Quand vous avez 2 ans, 5 ans, 20 ans de travail qui partent en fumée du jour au lendemain, quand on voit, j'ai vu un fromager à Arpajon, sa vitrine a été saccagée et l'intérieur saccagé aussi. Mais pourquoi? Pour voler des fromages? J'ai vu un cinéma à Arpajon. Le cinéma a été lui aussi pillé, la vitrine cassée. Le cinéma avait été refait à neuf pour les jeunes des quartiers, avec des séances à 4 euros la séance, spécialement pour les jeunes des quartiers. Ils ont détruit la vitrine et ils ont volé quoi? Des chips et des canettes de coca. Tout ça est absurde et révoltant. Et donc je veux dire vraiment avec beaucoup de cœur mon soutien à tous les commerçants de France. Je pense à vous. Et nous ferons le nécessaire avec les assureurs et évidemment sur les charges sociales et fiscales pour être à vos côtés dans les mois qui viennent.
Quand vous dites sur les charges fiscales et sociales, est-ce que vous allez juste les reporter ou est-ce que vous allez leur offrir, dire attendez, on fait un vrai geste? Parce que pour l'instant, c'est surtout des reports ce que vous faites,
oui,
des reports de charges,
des reports de PGE. Reports, mais là
aussi, ils ont besoin de plus.
Ils ont besoin, certains ont besoin de plus. Lorsque tout votre débit de tabac a été brûlé, lorsque votre commerce ne peut pas redémarrer, nous annulerons les charges sociales et les charges fiscales.
Annulé,
oui, quand vous ne pouvez pas redémarrer. Il y a juste la vitrine qui a été cassée, c'est très violent, c'est très dur à vivre, mais on met des plaques en bois, on reconstruit la vitrine et on peut redémarrer dans quelques jours. Il y en a d'autres, tout a été détruit. Ça a été incendié, une fois encore, pour rien, dans un acte d'une violence et d'une bêtise absolument incommensurable. Ben, ces commerçants-là, nous annulerons les charges sociales et fiscales.
Et que ferez-vous pour la perte d'exploitation? C'est-à-dire pour tous ces jours où ils ne pourront plus faire de chiffres, il n'y a plus rien qui rentre.
C'est là que l'annulation des charges sociales et fiscales pourra jouer. Mais vous avez la moitié des commerçants qui sont couverts pour perte d'exploitation, donc ceux-là pourront faire jouer leurs assurances. Et pour les autres, on regardera une fois encore au cas par cas. Et j'ai rétabli dans chaque préfecture un conseiller à la sortie de crise, c'est une personne physique. Je tiens beaucoup à ce qu'il y ait un contact physique. Parce que les commerçants que j'ai vus, très souvent en larmes, ils n'ont pas besoin d'un ordinateur. Ils ont besoin d'un regard en face d'eux. Et d'une personne qui leur parle et qui leur explique voilà ce que l'on va faire, voilà comment on peut vous accompagner. Donc je les invite tous à consulter le site impots.gouv.fr. Ils trouveront le 06 du conseiller à la sortie de crise dans la préfecture et ils peuvent y aller, il y a des équipes à leur disposition.
Mais je voudrais bien comprendre les choses, Bruno Le Maire. Vous nous dites ce matin que pour ceux qui sont le plus durement touchés, vous êtes prêts à annuler purement et simplement les charges.
Tout à fait.
Et à prendre en charge une partie de la perte d'exploitation.
Et nous verrons une fois encore au cas par cas, dans le cadre des conseillers à sortie de crise, ce qui doit être fait. L'annulation des charges sociales et fiscales, c'est déjà un geste très puissant, ça va aider beaucoup la trésorerie des commerçants les plus touchés. S'il y a besoin d'aide spécifique, complémentaire, sur un commerçant ici ou un commerçant là, nous serons là.
Vous ne vous interdisez rien?
Je ne m'interdis rien parce que je pense qu'il faut bien mesurer l'état de choc dans lequel sont les commerçants qui ont été agressés et au-delà des commerçants, tous nos compatriotes. La violence que nous avons vue depuis 5 jours a bouleversé nos compatriotes.
Est-ce que les parents doivent aussi payer pour leurs enfants? Cette question, elle revient notamment du côté de la droite depuis quelques jours. Est-ce qu'il faut supprimer les aides? Est-ce qu'il faut supprimer les allocations? Est-ce qu'il faut aussi supprimer les aides au logement pour des parents dont les enfants seraient jugés, condamnés pour ces émeutes?
Alors, qu'il y ait la responsabilité des parents, bien sûr. L'un des faits saillants de ces émeutes, c'est qu'il y a eu beaucoup de jeunes mineurs. Des enfants de 13, 14, 15 ans qui étaient dans la rue, qui ont saccagé, qui ont pillé. Quand vous avez des enfants, vous en êtes responsable. C'est pas facile quand c'est des adolescents, je le sais bien, mais vous en êtes responsable. C'est vous qui vous occupez de les soigner, de les éduquer, de les élever, c'est votre responsabilité. Et je pense qu'il est important, dans ces moments troublés, de rappeler des choses simples. La responsabilité des parents est d'éduquer et d'élever leurs enfants.
Responsabilité avec des conséquences sur cette responsabilité. Est-ce qu'effectivement, je vous repose la question,
il y a des conséquences pour les parents lorsqu'ils ne respectent pas ce qui est la règle, qui est d'élever et d'éduquer leurs enfants. Bah, ça doit avoir des conséquences pour les parents. Lesquelles? Il va y avoir beaucoup de propositions. Moi, je ne vais pas trancher ce matin. Chaque fois, il y a des sujets juridiques, il y a des sujets légaux. Il peut y avoir aussi des sujets moraux. Est-ce qu'il faut exclure du logement social? Est-ce qu'il faut revenir sur les allocations familiales? Tout ça doit être considéré avec beaucoup d'attention.
C'est des questions, mais vous n'avez pas de réponse.
Non, parce qu'il faut avoir un débat. Rien n'est si simple que cela.
En fait, vous n'êtes pas opposé à l'idée que les
parents... Surtout pas que dans la précipitation... nous prenions des mesures dont l'effet serait contraire à ce qui est recherché. Prenez les allocations familiales. Vous avez une femme seule. Elle a 4 enfants. L'aîné a 16 ans. Il a pillé. Les 3 derniers sont exemplaires à l'école. Vous avez 2 filles, 1 garçon. Ils sont exemplaires à l'école. Ils travaillent bien. Ils se donnent du mal. Ils font leurs devoirs le soir dans des conditions pas toujours évidentes. Est-ce que c'est une bonne idée de lui supprimer les allocations familiales parce que celui de 16 ans s'est mal comporté? Je ne sais pas. Il y a peut-être des solutions qui sont plus efficaces. En tout cas, je veux qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Oui, il faut engager la responsabilité des parents, mais faisons-le de manière efficace et juste.
On a parlé des sous pour rembourser les commerçants. Qu'en est-il pour rembourser le service public, pour reconstruire des services publics qui étaient déjà quand même pas flambants et qui se retrouvent carrément quasiment à l'arrêt? Je recevais ce matin le maire d'Aulnay-sous-Bois, Bruno Béchiza, qui nous disait qu'il n'a plus de cuisine centrale, il ne peut plus faire de plats chauds pour les écoles, il n'est même pas sûr de pouvoir le faire à la rentrée. Il a 50 voitures de la police municipale qui ont cramé, 50 véhicules qui ont cramé. Il a besoin de ça tout de suite. Il dit, bon, c'est sympa, on m'a reçu à l'Élysée hier, mais c'était de la calinothérapie. Moi, je veux des sous, je veux du sommeil trébuchant.
Le plus important, c'est ce que vous dites, c'est le tout de suite. Tout de suite, c'est quoi? C'est d'abord modifier les règles pour que nous puissions reconstruire les mairies qui ont été saccagées, les écoles, les bibliothèques qui ont été brûlées le plus rapidement possible. Et pour ça qu'on puisse s'affranchir des règles ordinaires qui ralentissent les travaux avec des autorisations qui prennent des plombes, il faut que ça aille vite, le plus vite possible. Donc nous allons dès ce matin, au Conseil des ministres, examiner, à la demande du Président de la République, les mesures, soit réglementaires, soit législatives, qui permettent de reconstruire vite, d'être aux côtés des maires, d'être aux côtés de nos concitoyens, et qu'on puisse effacer le plus vite possible la trace de ces événements pour avoir des bâtiments publics qui soient reconstruits. Ensuite, combien ça coûtera? Quelles sont les aides qui seront nécessaires? Ma porte est ouverte pour en discuter.
C'est le retour
avec
du quoi qu'il en coûte?
Non, certainement pas. J'ai vu des chiffres qui circulaient sur les commerçants. Aujourd'hui, le seul chiffre officiel disponible, c'est celui de la Fédération française d'assurance. 280 millions d'euros pour les dégâts qui ont déjà été déclarés. Alors, tous les sinistres ne l'ont pas été. Mais je pense qu'il est important de ne pas donner
mais
le sentiment.
Au final, ça ne sera pas 1 milliard pour vous.
Je ne sais pas combien ce sera, mais soyons prudents sur les chiffres.
Farfelu du MEDEF.
Soyons prudents sur les chiffres. Il n'est pas question de revenir à un quoi qu'il en coûte. Il est question de soutenir chaque commerce qui a été touché, chaque maire dont les bâtiments publics ont été abîmés.
Le chômage partiel, est-ce qu'il sera aussi pris en compte? Il y a une partie de ceux qui travaillaient, soit dans ces bâtiments, dans ces banques, dans ces magasins.
Le sera utilisé, mais c'est le chômage partiel dans sa version classique, pas dans sa version exceptionnelle du Covid, avec un reste à charge pour les entreprises.
Nous sommes le 5 juillet, Bruno Le Maire, et c'est donc le mois de juillet. Je voudrais que vous écoutiez ce que vous disiez à ce même micro le 9 juin dernier.
Je dis aux Français que dès le mois de juillet, sur un certain nombre de références et de produits, les prix baisseront en juillet. Et nous le vérifierons et nous sanctionnerons ceux qui ne jouent pas le jeu.
Vous la constatez, vous, la baisse de prix?
Comme quoi, je ne dis pas que des bêtises, parce que c'est exact. Vous avez un certain nombre de prix qui ont commencé à baisser au début du mois de juillet, et ça devrait s'accélérer dans le courant du mois de juillet. Je m'étais engagé à ce que l'inflation ralentisse et diminue au tournant de l'été. c'est le cas. J'ai toujours dit que pour les prix alimentaires, ce serait plus lent, mais que ce serait aussi le cas, c'est le cas. Aujourd'hui, tout le monde commence à jouer le jeu. Ça a été un bras de fer difficile, mais tout le monde a commencé à jouer le jeu. Les distributeurs, qui ont fait œuvre utile dès le départ avec le trimestre anti-inflation, et ensuite les industriels, qui ont été un peu plus difficiles à convaincre, mais ici sont mis. Donc vous allez avoir, dans le courant du mois de juillet, ça a déjà commencé, un certain nombre de produits, je pense à la volaille, je pense aux céréales, je pense aux pâtes, je pense aux huiles, dont les prix vont commencer à baisser. Je sais bien quand vous faites
vos
courses...
Pour l'instant, c'est du 0,1%. C'est rien.
Ça augmentait de 1, 2, 3% chaque mois, avec des hausses qui étaient de 13, 14, 15% par mois par rapport au mois de référence de 2022. Là, la baisse commence. Et il faut qu'elle s'accélère avec l'objectif que d'ici l'automne, nous ayons cassé cette spirale inflationniste sur les prix.
Vous considérez que ça y est, l'inflation est quand même... Le gros de l'inflation est derrière nous ?
Non, je ne dis pas que le gros de l'inflation est derrière nous. Je dis qu'elle devait commencer à baisser à l'été, que c'était mon engagement, que cet engagement est tenu, qu'un certain nombre de prix de produits alimentaires devait baisser, cet engagement est aussi tenu, et qu'il faut accélérer pour que ce soit visible dans le panier des consommateurs. Ça, ce sera à l'automne où vraiment, je pense,
vous n'aurez donc pas besoin de sortir le bâton. Vous aviez menacé de faire du name and shame,
très,
comme on dit, c'est-à-dire de pointer du doigt les industriels qui joueraient pas le jeu.
Il reste 4 ou 5 grands industriels, grandes multinationales qui ne jouent pas le jeu.
Lesquelles?
Je suis en discussion avec elles et soit on arrive à trouver.
Vous ne direz pas lesquelles. Vous dites toujours que vous allez le faire puis vous le faites pas.
Parce que je constate que la menace est parfois efficace et que ce qui compte pour moi, c'est pas de me faire plaisir en citant des noms et en les clouant au pilori, c'est que les prix baissent pour le consommateur. Donc je préfère jouer de ce levier. Il y en a encore 4 ou 5 qui ne jouent pas le jeu. Certains pour des raisons économiques, parce qu'ils sont dans une situation économique très difficile, ce que je peux comprendre. Un ou deux sans aucune raison valable à cela. Soit ils obtempèrent et ils jouent le jeu d'ici la semaine prochaine, soit nous donnerons leur nom et puis les consommateurs seront libres de choisir s'ils continuent à acheter leurs produits ou non.
C'est dans l'alimentaire ?
C'est des multinationales qui ne se font pas que de l'alimentaire, c'est aussi hygiène, produits de beauté... et autres produits.
Unilever,
je ne donne pas de nom ce matin, mais je le dis, si jamais ces 2 ou 3 multinationales qui ont les moyens de baisser des prix ne le font pas, il faut que le consommateur le sache.
D'ici la semaine prochaine, on a bien compris, il y a aussi cette menace de taxer. Vous aviez dit, s'il le faut, j'utiliserai l'outil fiscal. Et pourquoi vous ne le faites pas ? C'est-à-dire, quand on regarde le FMI nous dit aujourd'hui que 45% de la marge, c'est-à-dire de cette inflation, de cette part qui a augmenté, 45% pour toute l'Union européenne, hein, 45%, c'est dû à une augmentation du chiffre d'affaires des entreprises.
Et nous avons récupéré les marges excessives qui ont été faites par les producteurs d'énergie. Ça nous a rapporté plusieurs milliards d'euros qui ont financé le bouclier contre l'augmentation du prix du gaz et du prix de l'électricité.
Et pourquoi vous ne voyez pas une taxe exceptionnelle, là ?
Mais parce que je préfère que l'argent aille dans la poche du consommateur. La taxe, ça va dans ma poche. Alors, je suis très content qu'au ministre des Finances, ça remplit les caisses de l'État. Mais ça ne remplit pas les poches des Français. Donc, il est plus difficile, plus exigeant, mais dans le fond, plus juste et plus efficace pour le consommateur d'obtenir des baisses de prix. J'ai obtenu des baisses de prix. Et ces baisses de prix, elles vont dans la poche du consommateur. Et moi, mon obsession, c'est le citoyen. C'est le consommateur. C'est pas de remplir les caisses de l'État avec une taxe. C'est facile de faire voter une taxe. Tout le monde est pour. Donc vous arrivez au Parlement, vous proposez une taxe, vous pointez du doigt les industriels, tout le monde est content. Et à nouveau, la France se singularise avec des niveaux de taxes trop élevés et le consommateur qui n'a rien vu. Je pense d'abord et avant tout aux consommateurs.
Une question sur le livret A. Le livret A, Bruno Le Maire, le taux du livret A est aujourd'hui de 3%. Et certains économistes disent qu'ils pourraient atteindre 4,1%. Est-ce que vous confirmez ? Est-ce que c'est une perspective à laquelle vous êtes attaché ?
Je confirme rien du tout. Je confirme juste que le gouverneur de la Banque de France me fera ses propositions en fin de semaine prochaine. Donc j'examinerai les propositions du gouverneur sur le livret A comme sur le livret d'épargne populaire. Puis je prendrai ma décision après les recommandations du gouvernement.
Mais vous confirmez que le livret A restera intéressant, plus intéressant que l'inflation.
Le livret A, il est intéressant aujourd'hui. Ce qui est le plus intéressant, c'est le livret d'épargne populaire. Et je redis, nous avons réussi à faire augmenter de 20% le nombre de titulaires d'un livret d'épargne populaire. Mais il reste encore plusieurs millions de nos compatriotes qui pourraient avoir accès à ce livret d'épargne populaire avec un revenu garanti de plus de 6%. C'est-à-dire maintenant très au-dessus de l'inflation. Donc je dis à ces millions de nos compatriotes qui ont droit au livret d'épargne populaire, ouvrez un livret d'épargne populaire. Il n'y a pas de meilleure protection de votre épargne. Et quant au taux, une fois encore, j'attendrai la proposition du gouverneur.
Il y a Carlos Tavares, le patron de Renault, qui s'exprime aujourd'hui dans le journal Le Figaro et qui a l'air de vous renvoyer dans vos buts. Vous aviez dit qu'il fallait que notamment Renault relocalise la production de la voiture électrique. Vous avez parlé de la vallée de l'électricité désormais. Et c'est vraiment là-dessus que vous misez beaucoup pour le renouvellement industriel de la France. Sauf que lui, il dit, bah non, en fait, l'Europe a déroulé le tapis rouge aux constructeurs chinois et je veux surtout que le ministère me laisse tranquille sur ma stratégie industrielle et décider si je veux relocaliser ou pas. Il a l'air de dire d'ailleurs qu'il ne va pas le faire.
Nous verrons. Il est bien content par ailleurs, M. Tavares, comme d'autres industriels, de bénéficier des aides françaises, des bonus sur les véhicules électriques, du soutien à l'industrie française. Moi, j'ai un seul point réel de désaccord avec Carlos Tavares. Quand on voit l'accélération du changement climatique, quand on voit ce qu'on a connu au mois de juin, je pense qu'il faut accélérer la bascule vers le véhicule électrique. Et que la bonne stratégie économique, c'est de s'engager totalement vers le véhicule électrique. Ensuite, je sais que Carlos Tavares est un homme de défi et qu'il les a relevés brillamment dans sa carrière industrielle. Il va continuer à construire des véhicules en France. Il construira des véhicules électriques.
Continuer, oui, mais ceux dont vous espériez qu'ils allaient revenir, comme la E208.
Il s'est engagé, il le dit très clairement, à produire des véhicules électriques haut de gamme en France.
Oui, mais vous voulez aussi la petite voiture.
Eh bien, je lui demande de relever ce défi. Je souhaite qu'il relève ce défi de construire des petits véhicules électriques comme la I208 en France. Peut-être pas intégralement la production de I208, mais pourquoi pas une partie. Ce que je constate, c'est que Luca De Meo, chez Renault, construit un petit véhicule. La R5
Pourquoi Stellantis ne le ferait pas ?
C'est justement la question que je pose et je sais une fois encore que Carlos Tavares est un grand industriel, que c'est un homme de défi, qu'il a fait un travail exceptionnel à la tête de PSA et maintenant à la tête de Stellantis.
Là, c'est la partie où vous dites qu'il est gentil. Mais la vérité, c'est qu'il vous provoque un peu.
Mais ce n'est pas une question de gentil ou de méchant.
Il vous provoque un peu là quand même.
C'est juste une question de défi industriel. Le défi industriel pour la France, c'est de construire non seulement des véhicules haut de gamme, mais aussi des petits véhicules électriques comme la I208 sur notre territoire. Moi, je souhaite que Carlos Tavares relève le gant et relève ce défi.
Ben vous le souhaitez, mais il ne le fait pas.
Mais nous verrons, on va continuer
les discussions. Enfin, il le dit ce matin, il dit qu'il ne le fait pas.
Mais il ne dit pas les choses aussi clairement que cela. Il dit qu'il peut faire des véhicules électriques haut de gamme en France, que c'est plus difficile pour les véhicules électriques de taille plus réduite comme la I208. Je dis, voilà, il y a un défi, mais relevons-le ensemble. Nous, nous apportons des aides. Nous, nous aidons l'industrie. Nous, nous essayons de favoriser l'achat de véhicules électriques sur notre territoire. Je souhaite que les industriels fassent preuve aussi, tout simplement, d'un peu de patriotisme économique. L'économie, c'est effectivement des comptes de résultats, c'est des marges qu'il faut réaliser, mais c'est aussi un peu de patriotisme.
Enfin, là, il dit que l'Europe s'est trompée, qu'elle a tout fait à l'envers, qu'elle a déroulé le tapis rouge aux constructeurs chinois, et qu'il ne faut donc pas s'étonner aujourd'hui qu'il n'ait pas les moyens, lui, de faire revenir la production de la Peugeot 208.
L'Europe a pris, mais je partage le constat sur le fait que l'Europe a pris 5 à 10 ans de retard sur le véhicule électrique par rapport à la Chine. Mais regardez sur les batteries, toutes les batteries électriques étaient produites en Chine. On a réussi à rattraper notre retard grâce à l'action du président de la République et du gouvernement, on va ouvrir 4 gigafactories produisant des batteries électriques sur le sol français. Donc le défi peut être relevé. Et on me disait il y a 5 ou 6 ans, mais abandonner les batteries électriques, ça ne marchera jamais. Nous y sommes arrivés, nous créons des emplois à Dunkerque, à Douvrin et ailleurs. Je souhaite qu'on fasse la même chose sur le véhicule, sur les véhicules électriques haut de gamme, mais aussi sur les petits véhicules électriques.
Et puisqu'on parle de voitures, il y a toutes ces voitures qui ont brûlé. De nombreux propriétaires de voitures brûlées dans les émeutes qui n'étaient pas assurés pour l'incendie, pour le risque d'incendie, et qui se retrouvent sans voiture pour aller travailler, sans voiture pour emmener les enfants à l'école. Qu'est-ce que vous allez faire pour eux ?
Bon, je redis à quel point c'est révoltant et à quel point la première leçon à tirer de ces jours et ces nuits d'émeutes et de ces jours que nous venons de vivre, c'est le respect de l'autorité. Le problème fondamental de notre nation, c'est le respect de l'autorité. L'autorité des policiers, l'autorité de l'école, l'autorité du médecin, l'autorité des institutions, l'autorité du maire. Il faut rétablir le respect de l'autorité
de notre pays.
Non, ce n'est pas, du tout l'expression que je reprendrai.
Comme l'a dit le préfet.
Justement, l'autorité n'a pas besoin de claques. L'autorité, elle est naturelle. Elle n'a pas besoin de claques.
Bah, et c'est ça. Mais elle n'a pas l'air d'être naturelle. Est-ce qu'il faut trouver d'autres solutions ?
L'autorité doit être naturelle. Quand j'étais à l'école, l'enseignant que j'avais en face de moi, j'avais du respect pour lui. C'est l'autorité. Quand je rencontrais des personnalités, j'avais du respect pour ces personnalités.
Mais ça, c'est un très joli tableau. Quand vous avez le maire de la Ville-Rose qui vous dit,
c'est le bon
quand
tableau.
Un enfant
tape une enseignante, qu'on le renvoie, on a le père qui vient et qui crache
eh bien,
à la figure de la directrice.
Je rejoins entièrement ce que dit Vincent Jeanbrun, qui est un ami, quelqu'un qui j'adresse une nouvelle fois tout mon soutien à lui et à sa famille. Le respect de l'autorité ne peut pas être négociable, parce qu'il n'y a pas de nation sans règles communes et sans valeurs communes.
Moi, j'ai le respect de l'autorité. Très théorique,
mais... Non, ça n'est pas théorique.
Enfin, que tout le monde est d'accord. Hein,
mais
en
c'est ce vers quoi il faut s'engager avec les sanctions appropriées, le moyen de faire respecter ces règles. Sinon, il n'y a plus de nation possible. Il y a des communautés. S'il y a d'un côté les gens qui respectent les règles et les autres qui ne les respectent pas, vous n'avez plus une nation.
Mais vous dites,
vous avez
vous
des communautés
si,
qui sont face à face.
Mais vous dites si, mais c'est déjà le cas.
Mais c'est déjà le cas dans un certain nombre de lieux du territoire. Mais ça doit être notre défi collectif. Le respect de l'autorité.
Je
reviens
voitures.
Aux voitures, parce que c'est un sujet majeur. Vous avez 4800 voitures.
Parce qu'on a parlé des commerçants. On
10 à 15% des propriétaires de ces voitures ne sont pas assurés tout risque, ont uniquement une garantie au tiers. Nous allons rétablir et utiliser le fonds de garantie aux victimes avec le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui permettra d'indemniser les personnes les plus modestes, ceux qui ont un revenu, pour être tout à fait exact, inférieur à 26 000 euros par an. Elles pourront avoir une indemnisation jusqu'à 4 600 euros.
Mais c'est toujours pareil, c'est très bien de mettre un montant, mais il y a ceux qui bossent, qui gagnent leur vie, mais pas suffisamment pour s'en sortir, et juste au-dessus de ce plafond, qui n'ont plus de voiture pour aller travailler.
Oui, mais il se trouve que c'est les personnes les plus modestes qui ont été touchées, que le fonds de garantie des victimes, il est réservé aux personnes qui ont les revenus les plus modestes. Moi, je pense tout simplement à la personne qui doit aller travailler le matin pour faire le ménage chez Carrefour ou ailleurs, qui doit prendre sa voiture a brûlé, elle se retrouve au chômage technique uniquement parce qu'elle a été l'objet d'une agression qui est inqualifiable et qui est absolument révoltante. Je souhaite qu'elle puisse être indemnisée le plus vite possible pour
et vous débloquerez,
un
vous débloquerez donc
avec
ce fonds en priorité pour Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Merci d'avoir répondu
merci
à mes questions. Il est 8h54 sur RMC BFM TV.